Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Quelle serait la genèse des conflits qui déchirent les Katangais? C'est autour de cette question que se sont ouverts hier mardi à Lubumbashi les travaux du forum sur l'unité et la réconciliation des filles et fils du Grand Katanga. Et puis, après 20 ans sous le verrou dans le dossier meurtre de Laurent Désiré Kabila, le colonel Eddy Kapenda a parlé pour la première fois hier, le 17 mai. D'après lui, il ne porte pas le sang de Mouzé sur ses mains. Enfin, la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri est ressentie avec acuité dans la province de la Tchopo à titre illustratif, la pénurie du carburant. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Donatien Kanyinzia, acteur politique et député national honoraire de l'Ituri. Voilà tout pour les sommaires. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais se poursuit sans désemparer à Lubumbashi. Après le discours inaugural de l'archevêque métropolitain, les participants sont entrés dans le vif du sujet. Ils cherchent à connaître la genèse des conflits qui déchirent les Katangais avant d'envisager des solutions pour une réconciliation sincère des fils et filles de l'espace Grand Katanga Jangandou.
Les participants ont vu défiler devant eux les chefs traditionnels qui les ont entretenus sur les valeurs communes qui constituent la base de la katanganité. À cette occasion, ils ont brossé l'historique des coutumes dans l'espace Grand Katanga. Ils étaient relayés par le professeur Adrien Mulumba Tingasha qui a planché sur le thème « Regard critique sur l'histoire du Katanga, ruptures et crises internes ». Ce professeur de sciences politiques a démontré que les crises entre Katangais n'ont pas commencé dès nos jours. Allusion faite entre autres au conflit entre Danton Sendou et Moïse Tshombe. Pour lui, ce conflit était idéologique car le premier était unitariste et le second fédéraliste, mais tous militaient pour l'intérêt supérieur du Katanga et ils ont fini par se réconcilier. Par contre, les conflits actuels entre notamment Joseph Kabila et Moïse Katumbi, Fifi Mansouka et Richard Mouyège sont des conflits qui se basent sur les intérêts personnels pour la conquête du pouvoir et le repositionnement politique, ce qui a suscité un débat houleux et par moments passionnel. Les autres ont plaidé pour que les querelles soient mises de côté et que tout le monde privilégie l'intérêt de l'espace Grand Katanga. Avis pas totalement partagé par d'autres qui estiment qu'il faut éventrer les boas pour connaître les véritables causes des conflits avant de se pardonner et d'envisager une réconciliation sincère. Lubumbashi, Jangandou, Radio Kapi.
Et puis, suite de la série sur les résolutions de la table ronde entre l'espace Kasaï et Katangais. Dans notre précédente édition, nous avons parlé des taxis moto à Lubumbashi. Ces derniers font désormais partie du paysage du transport en commun dans la ville de Lubumbashi. Chaque jour, ce sont des milliers de personnes qui sont transportées d'un mulet à un autre. Quel peut donc être l'impact du taxi moto dans la vie socio-économique de la ville de Lubumbashi? C'est un reportage de Jean Gandou rendu par Alain Irung.
Le taxi-moto est considéré de nos jours comme une activité génératrice de recettes capable de nourrir son âme. Les motocyclistes se plaisent de cette activité qui leur permet de prendre soin de leur famille. Par jour, pour ceux qui n'ont pas de moto en propre, au-delà des frais de versement quotidien qui s'élèvent à 10 000 francs congolais, cela ne les empêche pas de gagner aussi quelque chose pour leur famille. Ils travaillent 5 jours pour le compte du propriétaire de la moto. Toute la recette du 6e jour leur revient. Cependant, ils doivent acheter le carburant pour les cours du lendemain. Le taxi-moto permet aussi de renflouer les caisses de l'État. En règle générale, pour qu'une moto soit opérationnelle dans la ville, son propriétaire doit avoir les documents et objets ci-après. L'autorisation, le numéro d'identification et la plaque. Tout ceci sont payants. Mais certains motocyclistes ne payent pas tous ces éléments, ce qui constitue un manque à gagner pour le trésor public. D'après nos sources, les sociétés qui montent ou vendent les motos à Lubumbashi font des bonnes affaires. Les prix d'une moto va de 900 à 2100 dollars américains selon la capacité et la marque. Il y en a qui écoulent jusqu'à 50, voire plus par jour.
Au Nord Kivu, une réunion de planification en interne pour la poursuite des consultations de Nairobi entre le gouvernement et les groupes armés locaux est prévue très prochainement à Goma. Les sources de la présidence confirment la tenue de ce rendez-vous avec la présence à Goma de quelques acteurs impliqués dans ce processus, n'est-ce pas Gabriel Wamenya?
Les quelques acteurs clés dans ce processus sont arrivés en début d'après-midi ce mardi à Goma. Il s'agit notamment de l'ambassadeur du Kenya à RDC, Georges Massefu, du professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi, ainsi que les délégués de la communauté internationale représentés par la MONUSCO, Jacob Mugeni. Selon les sources de la présidence, cette rencontre aura dans un premier temps un caractère interne sans la participation des groupes armés. L'objectif consistera selon les mêmes sources, à dégager et à déterminer les points essentiels, sinon un canevas des rencontres avec les groupes armés locaux pour les prochains rounds de ces consultations. Les mêmes sources précisent que la facilitation logistique pour la tenue de ces rendez-vous préparatoires sera assurée par la communauté internationale à travers la MONUSCO. Rappelons qu'au cours d'une rencontre mixte gouvernement et la communauté internationale tenue ce lundi au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, les ambassadeurs de la Chine, de la Grande-Bretagne et celui de l'Union européenne auprès de la RDC ont loué les efforts du gouvernement congolais dans le cadre de la stabilisation dans l'est de la RDC. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis, le chef des opérations d'information des forces de la MONUSCO plaide en faveur d'un renforcement des relations de proximité MONUSCO, FRDC et population. C'est pour prévenir les menaces sécuritaires. Le major Réginald Oba l'a dit lors d'un briefing avec les médias ce mardi à Goma. Pour lui, cette collaboration serait une réponse aux besoins d'un mécanisme d'alerte précoce face aux violences contre les civils, notamment au Nord-Kivu et en Ituri. Le détail avec Bernard Nyangui.
L'officier de la MONUSCO, qui était l'invité du briefing avec les journalistes ce mardi, répondait aux préoccupations cadrant avec une hostilité très accrue de certains habitants contre la mission au Nord-Kivu et en Ituri, où l'activisme d'M23 ADF Kodeko continue à endeuiller la population. A affirmé que la MONUSCO est consciente de toutes les rumeurs qui circulent, le major Réginard Obas insiste sur le fait que la force onusienne est animée par un code d'honneur, celui de protéger les civils à tout prix.
Dans l'est du Congo, certains contingents de la force servent carrément de bouc émissaire à certains segments de la population pour beaucoup de problèmes auxquels ils sont confrontés localement. Nos forces font de leur mieux pour assurer la sécurité dans les zones où elles patrouillent, etc. Mais ça peut pas se faire sans un partenariat avec les populations locales. Sans ce partenariat, pas possible pour nous de pouvoir remplir pleinement notre mandat.
À cette même occasion, le secteur centre des forces onusiennes a informé avoir mené au courant de la semaine dernière 61 opérations de patrouille, entre autres pour assurer la protection des civils, en particulier les déplacés dans les zones opérationnelles à Butembo, Lubero, Rutshuru, Masisi et Walikale notamment. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, sachez que le commandant des forces terrestres ougandaises a annoncé le retrait des forces ougandaises du sol congolais dans 2 semaines environ, selon l'accord initial. Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba l'a fait savoir ce mardi sur son compte Twitter où il indique que l'opération Shujaa devrait durer 6 mois. L'officier ougandais précise que cette opération conjointe de traque des ADF dans l'est de la RDC pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois si les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni décident de la prolonger. Les forces conjointes de l'UPDF et de FRDC sont heureuses de continuer à éliminer les ADF, conclut son tweet. Je ne porte pas sur mes mains le sang de Moussé Laurent-Désiré Kabila. Ce sont les premiers mots du colonel Eddy Kapend lors d'une conférence de presse ce mardi 17 mai à Kinshasa, après sa libération intervenue l'année dernière au terme de 20 années de prison dans le dossier de l'assassinat du président de la République honoraire. En ces jours commémoratifs de l'entrée à Kinshasa des ex-combattants de l'AFDEL, l'ancien aide de camp de Laurent-Désiré Kabila a tenu à expliciter le serment de feu le président de la République, pour qui le 17 mai reste très significatif. On écoute Eddy Kapend au micro de Jeff Ngoy.
Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de Moussé Laurent Désiré Kabila, à qui, comme fils, je suis resté fidèle et loyal, indéfectible. Ce que je retiens de cet épisode douloureux dans ma tête de combattant, je le dis, de soldat, c'est le serment que nous a légué les soldats du peuple Moussé Laurent Désiré Kabila, à savoir, ne jamais trahir le Congo. À l'occasion de la date du 17 mai, laquelle a une grande signification à mes yeux, comme pour beaucoup d'entre vous aussi. Ma ferme conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Préserver l'unité du pays est un devoir sacré pour chacun de nous.
Toujours au cours de cette conférence de presse, Eddy Kapend, en tant qu'un des notables de l'espace katangais, s'est exprimé en rapport avec le forum en cours à Lubumbashi sur l'unité et la réconciliation katangaise. Selon lui, ce forum trahit la vision et le serment de Moussé Laurent-Désiré Kabila. L'ancien aide de camp de Moussé Laurent-Désiré Kabila qualifie ce forum de ségrégationniste. Et puis, conspirateur et fossoyeur, Tupo Wakombozi, peuple seul libérateur, mémoire. C'est le titre d'une nouvelle publication de 362 pages qui vient de paraître sous la plume de Mouzé Ismaël Richard Tutuemoto Pieneninge Lubenga, ancien compagnon de la révolution du feu président Laurent Désiré Kabila. Cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux lundi dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Dans ses livres, l'auteur partage certains souvenirs de Macky et immortalise les héros nationaux, notamment Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Mouzé Ismaël Richard Tutuemoto est au micro de Jean-Marc Matouaki.
J'ai pris cette décision de vous offrir cet ouvrage pour dire que Laurent Désiré Kabila n'est pas mort, Patrice Emery Lumumba n'est pas mort, tous nos deux héros sont encore vivants parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour le peuple congolais. Che Guevara, c'est un internationaliste. Il voulait mourir. Regarde, il est allé libérer Cuba avec Fidel Castro. Il est venu ici chez nous pour lutter. Il est allé en Angola, en Algérie. Et il est allé mourir en Bolivie. Ça dit tout pour Che Guevara. Quelqu'un qui était là pour le bien du peuple et du monde tout entier. Ce que j'ai écrit là, c'est comme un acteur et un témoin vraiment vivant, vraiment qui était actif. Bien sûr, il y a beaucoup de mes compagnons qu'on a travaillé ensemble et qui sont morts. Vous voyez que vous direz dans les livres là, qui ont contribué avec moi. D'autres sont encore en vie. On ne peut pas toujours mourir avec tous ces secrets et tout ce qu'on connaît. Il faut laisser à la génération future que vous êtes, qui sache qu'est-ce que c'est le Congo et quels sont certains secrets cachés qu'on ne voulait pas vous les dire. C'est un livre pédagogique, historique, pour tous les peuples congolais, toutes tendances confondues.
Le taux de malnutrition sévère chez les enfants s'aggrave dans le monde à la suite de l'envolée des prix alimentaires, avertit le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dans un nouveau rapport publié mardi 17 mai à New York, au siège de cette agence de l'ONU. Et la RDC, dont 70% des enfants malnutris aigus n'ont pas eu accès au traitement en 2021, n'est pas épargnée. D'autres détails de ces rapports avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le rapport de l'UNICEF s'intitule SOS Enfants. Il parle d'une explosion catastrophique des taux de malnutrition sévère chez les enfants dans le monde. Situation que l'agence attribue à la guerre en Ukraine et aux coupes budgétaires engendrées par le Covid-19. Le coût des aliments thérapeutiques vitaux pour les enfants souffrant de malnutrition devrait enregistrer jusqu'à 16% d'augmentation, signale ce rapport qui met l'accent sur les malnutritions sévères dont souffrent nombre d'enfants dans plusieurs pays du monde. Concernant la République démocratique du Congo, l'UNICEF signale que le phénomène demeure tout aussi préoccupant depuis les dernières décennies et le rapport place la RDC parmi les 10 pays qui représentent 60% de la charge mondiale de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans. En 2022, précise SOS Enfants, on estime à 2,8 millions le nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë globale au Congo démocratique, dont 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans.
Et puis, dans la province du Maniema, le tronçon Kimanu-1-Kulewa, dans le secteur de Babouyou, en territoire de Kabambare, est impraticable depuis plusieurs années, affirment certaines sources. Après plusieurs plaidoyers faits par les organisations de la société civile et les notables de ces terroirs, rien n'a été fait pour aider les populations de cette partie de la province du Maniema. Mais pour soulager la population tant soit peu, les députés provinciaux élus de cette circonscription électorale, Théophile Bouleli, a financé les travaux de ces tronçons routiers longs de 90 km sur fonds propres. Les récits de Florence Kizalunga.
Cette route de desserte agricole se trouve dans deux groupements qui comptent plus de 60 villages avec au moins plus de 10 000 habitants selon certaines autorités locales. D'une importance capitale, ces tronçons relient les provinces du Maniema et de Tanganyika. Théophile Bouleli Docta explique pourquoi il finance ces travaux.
L'initiative de financer l'ouverture de la route, ça ne relève pas de compétences d'un député. Je l'ai fait quand j'ai vu que le gouvernement a failli à sa mission. C'est une route qui aide la population de Kabambare pour aller à Kalemie, la province de Tanganyika, afin de se ravitailler des produits de première nécessité.
Par ailleurs, Théophile Bouleli, qui reconnaît que la réfection des routes ne fait pas partie des attributions d'un député, demande l'accompagnement du gouvernement pour désenclaver cette partie du pays. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tentative de coup d'État au Mali, de sources judiciaires, on apprend qu'ils sont 7 à avoir été présentés mardi 17 mai dans l'après-midi devant les tribunaux de la commune 6 de Bamako. Inculpés d'entête à la sûreté intérieure de l'État en tentative de déstabilisation, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Le plus gradé d'entre eux est le colonel Amadou Keïta, rapporteur de la commission défense du Conseil national de transition, CNT. Il est considéré comme un proche du colonel Malik Diaw, président du CNT et membre de la junte, qui a porté au pouvoir l'actuel président malien, le colonel Assimi Goïta. Et puis, au 83e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mardi 17 mai, le procureur de la Cour pénale internationale CPI annonce le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs et experts, soit la plus importante mission en termes d'effectifs jamais envoyée sur le terrain afin d'enquêter sur les crimes commis pendant l'invasion russe.
L'invité.
Les conséquences de la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri sont ressenties avec acuité dans la province de la Tchopo. À titre illustratif, la pénurie du carburant constatée ces derniers temps dans la ville de Kisangani, ainsi que l'augmentation des prix des produits alimentaires et des premières nécessités. Qu'est-ce qui justifie la persistance de cette insécurité en Ituri et que faire pour y faire face? Donatien Kanyinzia, acteur politique et député national honoraire de l'Ituri, résident à Kisangani, donne de la voix. Il s'entretient ici avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Donatien Kani, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire qui prévaut en Ituri a des conséquences sociales et économiques très importantes. Kisangani commence maintenant à en ressentir les coups. Qu'est-ce qui fait que cette situation ne fait que s'enliser?
Le constat que nous faisons par rapport au processus de recherche de sécurité en Ituri, ce que nous constatons, c'est qu'il y a en Ituri un comportement, une logique qui va dans le sens souvent d'étouffer les initiatives. Les efforts de stabilisation, les efforts de sécurisation. C'est comme une raison, un système qui essaie de tout tirer par le bas. Le premier, c'est la communautarisation des conflits. La communautarisation des conflits, c'était très important. Et à sens inverse, c'était un accélérateur. Ça a un effet amplificateur. L'ennemi n'est plus celui qui a les armes à main, celui qui fait du mal, mais l'ennemi devient celui qui est de l'autre communauté. Donc, ça pose un problème.
Oui, ça, ce n'est qu'un volet. Et le second?
L'autre volet des difficultés de la population par aux efforts de la pacification, c'est le soutien que la population donne aux groupes armés. De gré ou de force, dans des zones où les groupes armés sévissent, toute la population donne le soutien. Il y en a qui le font contre leur gré, parce qu'ils sont obligés.
Dans ce cas, quelle attitude adopter face à cette situation?
Je crois que la première des choses pour l'Ituri, c'est finalement de tirer des leçons de son histoire. Il y a peu, fin 1999, jusqu'en 2003, c'était la guerre. L'Ituri en aurait tiré des leçons, on n'en serait pas là, en train d'assister, de voir encore les enfants de l'Ituri, avec des armes en main, tirant les uns sur les autres. C'est qu'on n'a pas pu tirer des leçons. On doit tirer des leçons de l'histoire qui se construit maintenant.
Donatien, que devrait faire le gouvernement congolais pour que le FRDC maintienne la pression sur les groupes armés?
Sur le plan militaire, il est important que le gouvernement mette tout en marche pour en arriver à des opérations militaires continues contre tous les groupes réfracteurs. Des opérations militaires continues. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des interventions des militaires parce que les rebelles ont agi. Non. L'opération militaire continue consiste à ne pas permettre aux groupes armés de se réorganiser. Quand l'armée s'engage, je fais confiance à cette armée, même si là-dedans, il y a des brebis galaises. Oui, mais cette armée, c'est l'unique armée que nous avons. Elle peut faire le travail. Parce que des officiers dignes de l'honneur sont encore là. Des hommes de pour loyaux, il y en a plein. Sinon, on n'arrêterait pas ces brebis galaises. Si on arrête ceux qui se comportent mal, c'est que les bons sont là et on doit continuer à assainir cette armée de l'intérieur. L'assainissement interne de l'armée doit continuer, que ce soit la police, les services de sécurité et même l'administration. Ces mécanismes d'assainissement, si on arrête ceux qui se comportent mal, aujourd'hui, c'est plein d'officiers en prison. C'est qu'il y a une machine qui marche. Cette machine doit continuer à marcher afin que l'armée monte en puissance, que l'armée donne les meilleurs d'elle-même.
Et quelles propositions faites-vous sur le plan politique?
Sur le plan politique, parce que demain après-demain, l'état de siège va passer, il faudra que la classe politique tue les leçons et dire cette fois-ci, il faudra une gestion politique, administrative qui met réellement à l'avant-plan les intérêts de la population. On doit sortir de ces querelles de leadership politique. C'est des choses qui affaiblissent. Un travail de train doit être fait pour arriver, par exemple, à créer les conditions de participation de la population aux efforts de la pacification. À lever les écueils qui faut qu'il n'y ait pas cette bonne synergie. Il doit y avoir une synergie entre la population et les services de sécurité, la police, l'armée, pour consolider la sécurité. De cette façon, chaque pas de l'armée sur le combat, chaque mètre, chaque kilomètre récupéré, on garde ça.
Quel message pour les enfants de Litouri?
Litouri doit sortir du cycle infernal pour emprunter la voie de sa reconstruction, son décollage, son élan. Si vous prenez cette conscience, en tant qu'individu, vous êtes milicien. Vous pouvez dire, pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour cette province, je dépose les armes.
Donatien Kani, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.